prolonger le débat sur Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
La situation sécuritaire dans le centre et le nord du pays, la mise en œuvre de l'accord de paix et la révision constitutionnelle sont les principaux sujets qui seront abordés ce soir dans le forum de la presse. Nous avons quatre invités, tous journalistes, Amadou Ombotimbe, Mokhtar Bari de Africa 24, Paul Ben et Amadou Salif Guindo de l'Enquêteur. Je suis Mohamedou Touré à la technique. Gagné Kanté.
Le grand dialogue.
Alors ce soir, on va commencer par la situation sécuritaire du pays. Bekay Sangaré, un des chefs du Front de Libération du Massina, a été abattu ce jeudi par l'armée malienne à Mounia, dans le cercle de Djéné, affirme une source militaire. Au même moment, des groupes armés auraient interdit à la population de Ténénkou de cultiver cette année, selon le coordinateur régional de Think Peace à Mopti. Alors, cette situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader, Monsieur Guindo, est-ce que vous pouvez nous faire le point là-dessus?
Bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani. En tant que journaliste, mais aussi en tant que ressortissant de la région de Mopti, je suis comme tous les Maliens, mais peut-être plus inquiété, très inquiet donc de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Et avec cette arrivée, sinon avec l'hivernage qui est déjà là, qui s'installe, et tout ce que l'on est en train d'entendre ne font que inquiéter, ne font que, je peux dire, créer de la panique, surtout que tout le monde vit là-bas de la pluie, et surtout de l'agriculture, de l'élevage.
Mokhtar Bari, qu'est-ce qui explique cette multiplication des attaques dans le pays?
Bon, je me dis quelque part, bonsoir tout le monde et bonsoir aux auditeurs de Studio Tamani. Je me dis peut-être c'est aussi un peu la lenteur dans la mise en œuvre des accords, notamment je veux parler du MOC, qui devrait en tout cas consister à regrouper les forces. Les armées, en tout cas les groupes armés et puis les FAMA, et à même de sécuriser ou en tout cas sécuriser les parties où l'État est quasi absent. Je me dis c'est en tout cas la lenteur dans la mise en œuvre du mécanisme de comment dire du MOC, qui peut aussi donner l'occasion à ces groupes armés ou en tout cas ces bandits armés de sévir toujours sur l'étendue du territoire, notamment au centre du pays et puis dans le nord.
Paul Ben, vous êtes à Menaka, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il y a eu une attaque cette semaine dans cette localité. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation?
Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux gens de Studio Tamani. Je suis à Menaka où la semaine dernière, il y a eu une attaque sur un convoi de l'armée malienne. On déplore beaucoup de déchets et puis des blessés, des rescapés. La situation sécuritaire, à part cette attaque, est très très tendue à Menaka, où on a enregistré dans le cercle de la ville d'Adraboukan des assassinats de Peul. Et à une vingtaine de kilomètres de Menaka, il y a aussi la localité qui s'appelle Tinabao, où il y a eu des assassinats. À part cela, la menace est permanente. On a répertorié quelques groupes qui se déplacent en moto, surtout, et qui préparent des attaques contre la ville. Bon, au grand mot, le gouverneur vient de se réunir avec tous les chefs des groupes armés militaires, notamment les FAMA, où la réunion a tourné autour de ce climat d'insécurité qui règne. Et certaines décisions ont été prises, notamment la sécurisation immédiate des populations qui se sont déplacées des zones attaquées. Et une commission de bons offices sera faite pour rencontrer un peu les plus qui sont victimes de ces assassinats. Et puis, bon, il y aura des communiqués d'apaisement pour essayer vraiment de rassurer la population, parce qu'il y a, trois semaines de cela, juste avant, après la fête de Ramadan, la localité de Foukaretan, à 65 km de Menaka, a aussi subi une attaque. Le gouverneur s'y est rendu avec une forte délégation pour apaiser les populations, apporter son, le soutien de toute l'administration et du Mali. Donc, nous vivons ici dans ce climat. À partir de 18h30, un couvre-feu est instauré. Il est strictement respecté par toute la population. Et je note ici que Menaka a une particularité. Dès qu'il y a une situation de ce genre et que les autorités prennent les mesures, elles sont vraiment respectées, parce que les populations sont vraiment conscientes que sans leur apport, on ne peut pas vraiment sécuriser la région et la ville de Menaka. En fait, c'est dans ce climat que nous vivons actuellement.
On annonce que deux des soldats maliens disparus dimanche dernier ont pu rejoindre la ville. Qu'en est-il des autres?
Malheureusement, les informations qui nous sont parvenues, qui ne sont pas encore vérifiées, je parle sous le gouvernement des autorités militaires, les informations qui nous sont parvenues ne sont pas positives, elles restent encore à vérifier. Mais elles font état de l'assassinat de tous les 8 autres militaires qui sont restés dans les mains des ravisseurs. Pour le moment, je vous dis, l'information doit être prise au conditionnel, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore des informations sur. On doit, le gouvernement a entrepris d'envoyer sur place cette mission, parce que pour le moment, les forces armées de sécurité maliennes, ni les groupes armés ne peuvent faire sirène. Donc, de façon très douce, ils vont envoyer des éclaireurs pour essayer de vérifier un peu la situation ou bien les autochtones qui se trouvent sur place. Mais pour le moment, les informations que nous recevons ne sont pas rassurantes.
Alors, Amadou Ombotimi, est-ce qu'il est possible que ces soldats disparus soient morts?
Ben, c'est une question difficile que vous me posez, parce que je ne suis pas sur le théâtre des opérations, mais toujours est-il que lorsque l'ennemi a entre ses mains, bien sûr, les forces qui le combattent, naturellement, il va abuser d'eux. C'est qu'il n'est pas exclu que ces soldats soient morts. Mais nous souhaitons vraiment les revoir vivement parmi nous et renforcer nos rangs encore dans les rangs de l'armée malienne. Ça, c'est le souhait que nous formulons. Mais il n'est pas exclu qu'ils soient quand même, qu'ils subissent ce sort-là.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique la dégradation de cette situation sécuritaire au nord d'abord, après le centre et même le sud parfois? Alors, qu'est-ce concrètement, pourquoi les attaques ne cessent de se multiplier, surtout au centre du pays?
Alors, les attaques s'expliquent par d'abord le fait de l'absence de l'État, selon moi. Je prends l'exemple de la région de Kidal, où on se plaît encore à dire que Kidal est le Mali. Oui, on veut bien que Kidal soit le Mali, mais que le gouverneur de Kidal soit à Kidal. Celui-ci, il n'est pas à Kidal. L'État n'est pas à Kidal. Le drapeau malien ne flotte pas à Kidal. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Nous n'avons aucun contrôle sur cette région de notre pays. Ce n'est pas Kidal seulement. Que le gouverneur de Taoudéni aille à Taoudéni, qu'il nous dise à partir de Taoudéni qu'il est gouverneur de Taoudéni. Non, là aussi, ce monsieur gouverneur fait ses réunions avec ses cadres à Bamako. À Tombouctou, pas plus tard que 48 heures, c'est le commandant de la brigade qui reçoit des balles. On veut nous faire croire que nous sommes sur un territoire où il n'y a pas d'insécurité. Là, je m'érige en faux contre cette allégation. Le pays vit une période d'insécurité comme il n'en a jamais connu dans l'histoire. Je suis formel. Parlant du centre, on parle de l'agriculture quelque part, où on dit que les djihadistes empêchent les gens de pratiquer l'agriculture. Ils ont d'abord brûlé des salles de classe, ils ont brûlé des tables bancs. les élèves qui étaient là-bas ont-ils été évalués? Posons-nous cette question. Ils ont fait toute une année scolaire sans aller à l'école, malgré qu'il y a eu un programme d'urgence du chef de l'État pour rattraper, mais quelle sorte de rattrapage lorsque on sait que des enseignants ne sont même pas sur place? Alors, moi je viens de Koro, on ne peut pas sortir à 20 km de Koro, sur l'axe Douna, Djungani, Dinangourou, Yoro, on ne peut pas y aller. Dans toute la région de Mopti, les gens ont la peur au ventre. Entre Sévaré et Douanza, on ne peut pas circuler tranquillement, sans se faire canarder. Mes chers amis, je suis désolé. Il faut que l'on attire l'attention des uns et des autres sur un fait. L'État malien est absent. Il s'agit vraiment de cette... L'ennemi profite de l'absence de l'État pour s'implanter, implanter ses tentacules par-ci, par-là, et nous combattre. Et si nous ne nous assumons pas, il arrivera un moment où nous ne pourrons plus contrôler ce mécanisme-là.
Mokhtar Bari, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Ombo Timbe quand il dit que la situation sécuritaire que nous vivons actuellement est pire que toutes les situations qu'on a déjà vécues, même celle de 2012 par exemple?
Non, je ne dirais pas qu'elle est pire que celle de 2012, mais quand même c'est une situation inquiétante parce que celle de 2012, on connaissait déjà où sont les agresseurs et tout. Donc on savait où se trouvent les assaillants et tout ça. Oui. Mais là, c'est comme nos chefs d'État aiment à le dire, c'est asymétrique. Il peut surgir de partout. L'assaillant peut surgir de partout, à Bamako, partout. Et vraiment, on n'est pas en sécurité, que ce soit au centre, même souvent dans d'autres capitales aussi. Et on ne sait plus d'où peut venir le mal. Je suis d'accord avec lui. Mm-hmm. Et c'est vraiment une situation qui inquiète. Et je peux dire que c'est dû en partie à l'absence de l'État, certes, mais aussi il y a une déconnexion, comme une déconnexion entre les cadres, les ressortissants, par exemple. Il a parlé de Koro et tout ça. Et je pense qu'il y a une déconnexion entre les cadres qui sont à Bamako. Et puis ceux aussi qui sont restés aussi, dans les régions et tout ça. Okay. Il y a une déconnexion, il n'y a plus de dialogue entre
eux. Manque de communication.
Manque de communication aussi. Sinon, je pense que s'il y a une communication, ces deux peuvent, et les efforts conjugués peuvent en tout cas amener à apaiser les climats de violence dans ces régions.
Monsieur Amadou Salif Guindo, si cette information se confirmait, jusqu'où les groupes armés, du fait que les groupes armés interdisent la communauté, la population de Ténénkou de cultiver, est-ce que c'est pas une information qui devrait être prise au sérieux par les autorités, même si on sait que on note l'absence de l'État dans cette partie du pays?
C'est une information, bien sûr, qui doit être prise très au sérieux. Mais bon, déjà, il y a quelque chose qui est très important à rappeler. La plupart des groupes qui opèrent dans cette zone-là sont des groupes, en réalité, qui sont autochtones des zones, donc qui maîtrisent le terrain. Je ne dirais pas qu'il y ait, disons, une complicité, mais quand même, ils sont bien installés dans la zone.
Vous voulez dire que les groupes armés sont
des autochtones,
des populations même du centre?
Pas forcément toutes les populations du centre, mais quand même certaines personnes issues des communautés animent quand même ces groupes-là et entretiennent ce climat d'insécurité. On sait par exemple qu'il n'y a pas très longtemps, à Mopti, il y a eu écho d'un enlèvement d'une fille d'un pétrolier malien très connu. Et il s'est agi plus tard que c'était une mise en scène et à laquelle ont participé des membres de sa famille. Donc quand il y a des choses de ce genre-là, moi je me dis, il est possible aussi que toutes les autres choses qui se passent dans la zone peuvent être mises en scène. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Je pense qu'il y a danger parce que ces personnes-là d'abord procèdent par une mise en scène, mais quand elles se rendent compte que l'État n'agit pas, bien sûr, dans ces cas-là, ils peuvent aller jusqu'au bout.
Alors, Paul Ben, la situation sécuritaire dans le pays, c'est pas juste les attaques contre les forces armées maliennes. En début de semaine, lundi 10 juillet, la force française Barkhane a eu des échanges de tirs avec des djihadistes. On note plusieurs terroristes qui ont été tués, des véhicules détruits. Également, ce jeudi, il y a eu Bekay Sangaré, un des chefs du Front de libération du Massina, qui a été abattu par l'armée malienne à Mounia, dans le cercle de Djéné. Alors, est-ce que c'est une avancée dans la lutte contre le terrorisme?
Bon, écoutez, c'est une goutte d'eau dans l'océan, hein, parce que moi qui suis à Benaka et qui suis constamment dans les régions de là-haut, souvent dans la région de Kidal, moi je. Parce que si vous faites un peu le comparatif entre les attaques et ces coups d'éclat, si je peux les appeler ainsi, de la force Barkhane, c'est minime, parce qu'on perd beaucoup. On perd beaucoup plus qu'on en gagne des batailles. On a 1000 soldats qui sont actuellement déclarés morts ou disparus. On a 4 véhicules qui ont été enlevés et des armes.
Est-ce que la force du G5 Sahel, également le plan stratégique annoncé par le ministre de la Sécurité pour le centre, est-ce que ces différentes mesures vont changer quelque chose?
Moi, j'attends que la force du G5 Sahel soit sur place. Et puis, vous savez, on a déjà sur le territoire malien une kyrielle de forces armées qui ne peuvent pas repousser ces forces du mal. Le G5 Sahel, il est d'abord politique. Moi, j'attends que cette force soit sur le terrain. Je jugerai, comme on dit, le maçon au pied du mur. Parce que Barkhane, qui est à peu près 300 km de Menaka, et Menaka est à 50 ou plus, 80 km de la zone de l'épicentre du terrorisme. Barkhane a tous les moyens de la terre pour pouvoir nous aider. Je ne lance pas la pièce sur les forces étrangères, parce qu'elles sont étrangères. On doit d'abord nous-mêmes battre ce combat. On doit nous-mêmes d'abord combattre le mal qui est chez nous. Parce que comme le disait un confrère tout à l'heure, vous savez, dans la zone de Mopti, au centre où prolifèrent ces bandes armées, ce n'est pas des étrangers. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir quelqu'un de Kidal aller combattre dans la zone de Telenkou. Vous n'allez pas voir quelqu'un de Telenkou venir combattre dans la zone de Foukarektan ou bien de Tinaba ou vers Anderaboukal ou bien vers l'autre front de la frontière nigérienne entre le Niger et le Mali, c'est-à-dire vers l'Abzanga. Vous n'allez pas voir cela. Ce sont les autochtones qui se constituent en bandes armées et qui, chaque jour, terrorisent les populations. Donc, moi, je compte d'abord sur nos propres forces. Après, maintenant, Barkhane...
Est-ce que nos propres forces, en termes de formation, est-ce qu'elles sont en mesure de faire face à la situation?
Bien sûr, bien sûr. Moi, je le dis, d'abord, en tant que Malien, et en tant que connaisseur un peu de la chose, je dis que aujourd'hui, on a un problème de gestion de ressources humaines. Quand vous êtes à l'état-major à Bamako ou au ministère de la Défense, ou même à Bamako tout simplement, vous allez voir des militaires qui vont passer une semaine, qui trimballent, qui font du thé à l'état-major. On en a besoin sur le terrain. On en a besoin sur le terrain. Une zone comme la région de Menaka, qui est frontalière, et toutes les attaques qui se passent au Niger partent de chez nous. Ils attaquent au Niger, ils se replient vers chez nous. Une zone comme Menaka doit être renforcée. Elle doit être renforcée par exemple, les unités qui doivent être envoyées à Guelvo.
Nous allons revenir avec vous, Paul Ben. Mokhtar Bari, est-ce que vous pensez, Paul Ben, juste une seconde, est-ce que Mokhtar Bari, vous pensez également que la force G5 Sahel et le plan annoncé par le ministère de la Sécurité pour le centre vont changer quelque chose dans cette situation d'insécurité que vit le Mali?
Je pense que tel que c'est, normalement ça doit changer. Mais souvent, il y a, je me rappelle souvent quand il y a eu les attaques, que ce soit à Bamako ou à Ouagadougou ou à Abidjan, on a demandé que les populations collaborent avec les forces de sécurité. Et j'ai parlé tout à l'heure de ce déficit de communication entre les administrés et les administrateurs. Ça aussi, ça, et pour que ça, cette force prenne, il faut qu'on prenne en compte cet aspect. Donc pour la force G5 Sahel, il faudra intégrer aussi quelque part aussi, parce qu'il ne faut pas militariser seulement la zone. Il faut essayer aussi de... Je sais qu'il y a un truc de développement, il faut être...
Il y a un volet gouvernance, voilà, développement, gouvernance, socio-économique.
Et surtout, je me rappelle, le président Macron, il disait même... en tout cas, il a mis l'accent sur la bonne gouvernance, tout et puis aussi vraiment... Et s'appuyer sur la bonne gouvernance pour aussi, je ne dis pas que ces régions ne sont pas développées, mais faire en sorte que les programmes de développement, par exemple, je vous parle de l'exemple du Burkina Faso qui a, pour anticiper cette situation, a débloqué, je crois, 400 et quelques milliards pour la région du Sahel. Mm. C'est bien. C'est bien si, par exemple, on essaie de mettre, avoir l'œil et puis également être rigoureux dans l'utilisation de ces fonds. C'est généralement ça qui pose problème. On fait des financements. Puis après, ça, on n'exécute pas le projet. Et bon, les bandits profitent
de cette situation. Voilà, de cette situation. Est-ce que vous pensez, comme Paul Ben, que l'armée malienne aujourd'hui, en termes de formation, est en mesure de faire face à la situation du Mali quand Paul Ben demande que ce soit géré par nos propres forces d'abord?
Oui, nous sommes un pays indépendant depuis 60 ans bientôt. Nous avons une armée. Une armée de métier, mais une armée démotivée. Alors, Paul Ben...
Pourquoi elle est démotivée?
Elle est démotivée parce qu'il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
C'est-à-dire?
Je veux dire, ces militaires que Paul Ben appelle, enfin, nomme comme ceux-là qui sont là en train de prendre du thé, ils ne peuvent être que des militaires sous couvert d'autres autorités qui empêchent que leurs enfants aillent au charbon. Mais mon enfant, je l'ai mis au monde. Votre enfant, vous l'avez mis au monde. Il ne vaut pas mieux que mon enfant, moi. Quand mon enfant va au front, il faut que le tien aille au front. Mais on a des militaires qui ne vont jamais au front et qui, lorsqu'on les mute dans des zones dites d'insécurité, refusent de partir et disent même à l'autorité, c'est vous qui allez plutôt partir, c'est pas moi. Je suis vraiment désolé, nous sommes dans un pays où ça se dit à longueur de journée. Ils refusent de rejoindre leur poste. Première chose. Merci Paul. Deuxième élément, on a toujours dit que nous avons donné suffisamment de moyens à nos forces armées. On a brandi toutes sortes de choses ici pour dire non, on a payé des armements, des équipements et autres. Oui, c'est bien beau de le dire, mais j'ai bien peur que ce ne soit que des effets d'annonce. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous subissons des pertes. Et pourtant, nos militaires qui vont sur le terrain sont bien déterminés. Coup de chapeau d'ailleurs à eux. Quand certains d'entre eux font des prouesses sur le terrain, ils se battent jusqu'à la dernière goutte de leur sang.
Y a-t-il eu une amélioration depuis 2012 concernant l'impact de la formation, notamment de l'EUTM?
Oui, j'apprécie. J'apprécie. Bien sûr, cette formation qui vient renforcer nos capacités, c'est bien, mais faudrait-il qu'à l'interne, que les vraies valeurs du soldat malien soient reconnues. Que lorsqu'il y a une mission, qu'on dise que nous partons nous battre pour le drapeau national.
Alors, nous parlons d'insécurité, mais également nous allons parler de processus de paix et les attaques, c'est pas seulement les djihadistes. Il y a eu également les affrontements entre la CMA et la plateforme, notamment le jour même de la 19e session du comité de suivi de l'accord à Kidal. Alors, est-ce que on peut parler de retard ou de non-respect des accords de l'accord de paix?
Il y a violation déjà de l'accord dans la mesure où on a dit que la signature des accords met un terme à toute attaque entre les groupes signataires, d'une part l'État malien et la CMA et d'autre part la plateforme et la CMA. Mais si pour le contrôle d'axe, comme on le dit très souvent. Les deux groupes belligérants se livrent à des attaques, chercher à contrôler ce qu'on appelle aussi donc les axes, et contrôler les villes considérées comme stratégiques, c'est qu'il y a vraiment violation de l'accord. Alors, qu'est-ce que l'État malien dans cette situation doit faire? Bon, malheureusement, comme le grand frère l'a dit, puisqu'il ne contrôle rien, pratiquement dans toute cette région, on ne pourra pas dire que l'État a son mot à dire. Les communiqués, c'est de l'ordre du logique, en condamnant, mais condamner, ça ne changera pas grand-chose.
Mais Mbotimbe, le président Macron, lors du sommet du G5 Sahel, avait dit que le président Ibrahim Boubacar Keïta a promis de sanctionner ceux qui violeront l'accord de paix. Et tout de suite, quand Amadou Salif Gindo dit qu'on ne peut pas dire que l'État peut vraiment gérer la situation, alors est-ce que le président peut tenir sa promesse?
Est-ce que l'accord prévoit que le président sanctionne quelqu'un? Ça, c'est la question que je me pose. Répondez-moi si vous avez des éléments d'information. Mais est-ce que l'accord prévoit que le président sanctionne quelqu'un?
Yombo, Salif Guindo, vous pensez que l'accord prévoit ça?
Je me dis peut-être que c'est plutôt un rôle du comité de suivi de l'accord. Mais malheureusement, on l'a entendu dans la même journée. Monsieur Boutache, qui est censé donc faire le policier et prendre les sanctions, a dit « je ne peux rien contre ». Il a montré à quel point son rôle est nul, désolé quand même de le dire, parce qu'il ne peut rien faire, même s'il avait menacé dans un premier temps la CEMA quand il s'était agi de faire libérer ce qu'il appelait le camp 1 de Kidal. Mais on a vu quand même que le CSA, ça ne sert plus à rien. Mais quand même, on ne peut pas, bien sûr, mettre un terme à son règne. Voilà, parce que l'Algérie a quand même joué un rôle important et va continuer à jouer un rôle important. Et mettre un terme au travail de M. Boutache, c'est agresser quelque part, peut-être indirectement, le voisin algérien qui y verrait une main de la France qui...
Alors, Paul Ben, quand le président du CSA dit que lui ne peut rien faire et que le président Ibrahim Boubacar Keïta lui aussi promet de sanctionner, pour le moment on ne voit pas encore de sanctions, et la CMA qui annonce qu'elle contrôle Anefis et la plateforme qui dit qu'elle ne va pas laisser Anefis aux mains de la CMA aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution dans la mise en œuvre de l'accord de paix?
Vous savez, moi je regarde toujours ces jeux de ping-pong de loin. Parce que quand on est dans une zone comme Dakar ou bien Kidal ou Blitz, et on sourit souvent aux réactions des uns et des autres. Même hier soir, j'écoutais Anadif, le représentant spécial du chef de l'administration ici. Vraiment, les politiciens qui parlent là, chaque fois, c'est vraiment, ils vivent sur une autre planète. C'est des idéalistes, c'est des utopistes. Hein. Y compris souvent notre président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est poussé souvent dans ces derniers retranchements pour dire des choses. Vous savez, entre la réalité du terrain et ce qui se dit dans les salons climatisés à Bamako, vraiment, il y a un océan. Donc, c'est pour dire tout juste que l'évolution dans la mise en œuvre du processus de paix est très difficile. Chaque peut-être gouverneur ou bien chaque cadre de l'État à son niveau essaye de faire cela, mais quand ça arrive à un certain niveau de décision, je suis désolé, mais ça laisse vraiment à désirer. Si vous voyez sur toute la ligne, le médiateur qui a comme point focal ce CSA, mais qu'est-ce qu'il fait depuis tout ce temps? On assiste aux affrontements, tout pas plus tard que l'autre jour, la CMA a occupé Anefis. La plateforme, je sais qu'elle va pas laisser passer, elle va se jeter. Tout juste après la fête, la plateforme a battu un appel de troupes pour encercler Kidal. C'est déplorable. Maintenant, l'administration qui est là, qui Analyse a dit que le mandat de la MINUSMA, ce n'est pas la lutte contre le terrorisme. On est d'accord. Ils disent que leur mandat, c'est la stabilisation, c'est l'accompagnement. Mais je suis désolé, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas d'action de stabilisation, il n'y a pas d'action d'accompagnement des autorités. Moi qui suis ici, on le voit à longueur de journée. Quand il s'est agi, par exemple, du conflit entre les communautés ou bien entre les différents groupes armés, vous demandez à la MINUSMA de venir contribuer. On est aujourd'hui dans le cadre de Ménaka où il y a eu une armée malienne qui a été attaquée.
Donc, Paul Ben, vous pensez que la MINUSMA devrait changer sa façon d'agir. Alors, Monsieur Barry, est-ce que vous pensez que le nouveau chronogramme qui annonce la mise en place des autorités intérimaires, l'opérationnalisation du mécanisme opérationnel de coordination d'ici le 30 juillet, est-ce que ce nouveau chronogramme pourra être respecté avec cette situation?
Ça va être difficile avec ces dernières attaques entre la CEMA et la plateforme. Et comme j'ai oublié son nom, Paul Ben le disait, il faut s'attendre à des représailles de la part de
la plateforme.
De la plateforme. Et moi, je pense que l'AMINUSMA, la dernière fois, j'écoutais le chef de l'AMINUSMA qui parlait des sanctions. Et je pense qu'il va falloir que vraiment la communauté internationale, à travers la MINUSMA et puis la médiation, hausse vraiment le ton et puis applique vraiment, pas ces sanctions, mais en tout cas, ils essaient de. Voilà, les mesures qu'ils prennent souvent, parce qu'il a parlé des sanctions il n'y a pas longtemps. Et je pense que la MINUSMA ou la communauté internationale peut taper du poing sur la table pour que chacun puisse jouer franc jeu, pour que le processus puisse avancer rapidement et voir la matérialisation du MOC.
Mbotimbe, les autorités menacent, elles promettent des sanctions, mais concrètement, on voit toujours que la situation, alors que la CMA et la plateforme avaient même promis en disant que cette fois-ci, elles sont vraiment confiantes, optimistes, que la situation va évoluer, mais avec ces dernières attaques, est-ce que vous pensez que le chronogramme sera respecté?
Moi, le chronogramme ne peut pas être respecté. Tant que les parties signataires de l'accord ne s'entendent pas sur un même principe, ça ne marchera pas. Et quand on parle de sanctions, je vais y revenir. Qui va sanctionner? Et quelle sera la nature de la sanction? Est-ce que c'est parce que l'État va couper le vivre qu'il donne à ceci-là? C'est ça la sanction? Ou est-ce qu'on va prendre des gens pour les faire subir l'épreuve de la chicotte? Qui est-ce qu'on va sanctionner? Comment on va sanctionner? Des gens qu'on a allé chercher dans leur terroir respectif, dans leur salon d'hôtel, pour les faire venir signer, s'il vous plaît. Si vous ne signez pas, mais ça ne va pas marcher. La CEMA, on l'a vu. Les accords devaient être signés, ils ont boudé.
Pensez que le retour de l'administration ne se fera pas d'ici le 30 juillet?
C'est une illusion.
Merci. Une courte pause et on va parler tout de suite de révision constitutionnelle.
Contre le projet actuel de révision de la constitution malienne.
La question sera au cœur d'un forum spécial le mardi 18 juillet 2017 à la maison de la presse de Bamako de 10h à 12h.
Principaux invités, Kassoum Tapo, ministre des droits de l'homme et de la réforme de l'État. Tchiblé Ndramé, président du Parti pour la Renaissance Nationale, Parena.
Ne manquez pas ce grand forum démocratique organisé par le Studio Tamani, programme d'information de la Fondation Hirondelle, Mikado FM et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Diffusion sur les ondes de la Radio des Nations Unies et toutes les radios affiliées à l'URTEL. Le mardi 18 juillet de 10h à 12h.
Mesdames et messieurs, ce soir dans le Forum de la Presse, nous parlons d'insécurité, de processus de paix et maintenant et tout de suite de révision constitutionnelle. Le gouvernement qui maintient sa position en disant qu'il va poursuivre le processus de révision constitutionnelle. L'opposition, elle, qui maintient sa position en demandant le retrait pur et simple de ce projet de révision constitutionnelle. Une marche est même prévue demain. Et la société civile qui appelle les deux parties au dialogue. Alors, Paul Ben, vous qui êtes au nord du Mali, quelle est la situation sur place? Quelle est la perception de la population de ce processus de révision constitutionnelle?
Oui, franchement, à Ménaka, précisément où je suis. Bon, à Gao, j'y étais il n'y a pas très longtemps, tout juste après la fête. On a un autre agenda. Ici, c'est un autre agenda qui préoccupe les gens. Ce n'est pas...
Quel est cet autre agenda?
Cet autre agenda, c'est la sécurité. Les gens veulent, par exemple, il est maintenant 19h moins, vous ne verrez pas un char passer dans la rue. Les gens veulent vraiment vivre comme ils vivaient il y a 3 ou 4 mois. Les jeunes sont là, ils veulent s'épanouir, on est en début de week-end. Si cette situation ne perdurait pas, il y aurait à avoir des concerts.
Oui, mais Paul Ben, quand les autorités disent que c'est l'accord d'Alger qui demande cette révision constitutionnelle pour permettre la mise en œuvre totale de l'accord, alors qu'en dites-vous?
Je crois que dans le point de l'accord, la révision constitutionnelle trouve sa place. Maintenant, il faut expliquer aux gens. Ce n'est pas, vous savez, la révision constitutionnelle ne date pas d'aujourd'hui. C'est que ceux qui sont contre la révision doivent le savoir, ils doivent expliquer cela. Mais le gouvernement aussi a ce devoir d'expliquer. La révision constitutionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Autant d'ATT, on a vu c'est dans la commission d'Aba, mais moi je n'ai pas vu de changement par rapport à ce que la commission d'Aba avait proposé dans la révision constitutionnelle. Je ne vois pas de changement. Maintenant, si l'opposition essaye de contrer ce qui va se faire, elle est dans son rôle. Mais l'État aussi doit jouer son rôle d'explication, de sensibilisation des populations. Parce que ici, moi je vous dis, pourquoi est-ce que je vous dis qu'on a un autre agenda? Parce que, franchement, je n'ai pas encore vu une mission de l'État venir signer les différents cercles, les 4 cercles de la région de Ménaka pour expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on doit voter pour la révision constitutionnelle. Mais vous allez demander aux gens d'aller voter pour quoi?
Mais est-ce que l'État n'attend pas les campagnes?
Et on attend les campagnes, c'est quand? Les campagnes, c'est quand? Normalement, c'était prévu pour le 9.
Ça a été reporté, Sinédier.
Je sais. Je suis arrivé 10 jours avant cela. Vous savez, en Bambara, on dit que si la nuit la nuit sera belle, on le sait tout juste dans l'après-midi. Si la révision constitutionnelle devait avoir lieu, on l'aurait su déjà. Je veux dire que franchement, on n'a pas vu un certain engouement, on n'a pas vu des mouvements de sensibilisation, les marches, les protestations, ça c'est Bamako.
Alors, Guindo, pensez-vous de ce processus de révision constitutionnelle? Le gouvernement qui maintient sa position, l'opposition qui demande le retrait pur et simple?
Moi, je pense déjà que le projet de révision constitutionnelle est en soi un piège. Dans la mesure où le fait de ne pas pouvoir aller à ces élections pourront constituer un motif, sinon un alibi pour le pouvoir de demander, si l'on peut appeler ça, un report des élections de 2018, même si constitutionnellement les élections présidentielles n'ont rien à voir avec les élections référendaires. Les juristes vont me dire ça ne se ressemble pas, oui, mais ce qui est le problème, c'est que si on ne va pas au référendum, le pouvoir et la communauté internationale qui sont censés nous aider aujourd'hui à tenir ces élections nous diront, ben oui, vous avez refusé d'y aller quand c'était possible en 2017, en 2018, la situation n'a pas changé, parce que je crains que ça ne change. On va nous dire, vous n'avez pas voulu donc...
Alors, voulez-vous dire que l'État ne veut pas réviser cette constitution, elle veut juste préparer un report des élections présidentielles?
Je ne dis pas que ce soit entretenu par l'État, mais l'État est peut-être en train de tester quelque chose. Et il s'agit déjà de voir si les Maliens accepteront d'aller à une élection organisée par le pouvoir et la communauté internationale, qui est différente de celle organisée par, celle organisée en 2013. Mmh. Et on sait que l'État aujourd'hui contrôle moins de territoires qu'en 2013. Et malheureusement, si aujourd'hui on ne va pas aux élections, au référendum, le pouvoir aura quand même une excuse pour dire « Vous n'êtes pas allé cette année, en 2018, on ne pourra peut-être pas y aller. »
Ombotimbe, êtes-vous d'accord avec Guindo?
Vraiment, je ne suis pas d'accord avec mon frère à ce niveau. Je pense que c'est là encore le piège. Le pouvoir actuel est en train de créer ou de fabriquer cette thèse-là, cette théorie dans la tête des Maliens pour juste jouer au dilatoire, en fait.
Donc, vous voulez dire également que c'est un piège, mais pas celui...
Pas celui que Amadou a choisi. C'est un autre piège. On a vu quel forcing l'État a fait pour organiser les élections municipales. Et nous savons combien de localités n'ont pas voté. Et dans la même logique, l'État malien va organiser les élections référendaires. Tant pis pour les localités qui n'auront pas l'occasion de voter. On ne les consultera même pas. Et à ce niveau, je voudrais dire que là où à Kouakourou, par exemple, on prend des agents des impôts partis pour recouvrer les frais de vignette, pour les faire subir l'épreuve de fouet, un candidat qui va aller pour battre campagne pour les élections référendaires n'échappera pas. Je demande à mes cousins Bozo d'aller à Kouakourou chez eux pour tenter de battre campagne. Ils seront désagréablement surpris. Maintenant, élections référendaires, élections présidentielles, je pense que les élections référendaires constitueront un boulevard pour les élections présidentielles. S'ils réussissent ce coup, l'organisation des élections référendaires au Mali, par le forcing que l'on connaît, ils réussiront à organiser les élections présidentielles, même si il y aura que la seule région de Bamako, je veux dire le seul district de Bamako qui va voter, le président de la République va se taper la poitrine pour dire bon, j'ai gagné parce que la population malienne a voté. Voilà le problème.
Alors, Mokhtar Bari, vous, que pensez-vous de ces deux idées de Ombotimbe et Guindo?
Ce que je pense, c'est que j'avais remarqué avant la signature des accords d'Alger, il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque le pré-accord. Et moi, bon, particulièrement pour avoir travaillé sur ce projet, j'ai au moins sillonné presque cette région du Mali pour sensibiliser les populations sur le pré-accord, recueillir les impressions avant la signature de l'accord. J'aurais en tout cas préféré que le pouvoir en place explique par l'emploi l'accord, le projet de révision, sensibilise la population, une bonne communication et recueillir aussi les avis des populations avant de passer le projet ou en tout cas demander à ce qu'on tienne un référendum.
Il y a l'avocat français Marcel Sekaldi qui a participé à la rédaction de ce programme de révision constitutionnelle qui pense que cette révision constitutionnelle est imposée au Mali par la communauté internationale à travers l'accord d'Alger.
Là, c'est...
Oui, et moi je voudrais réagir à ce niveau.
Par la force,
oui. la communauté internationale force le Mali à aller au suicide. C'est ce que j'entends. La communauté internationale,
je répète,
que nous avons... Non, j'ai bien compris votre question, mais je voudrais rebondir sur votre question en demandant à la communauté internationale si le fait que nous lui avons demandé de venir nous aider en 2012 pour régler notre problème, n'est-ce pas, voudrait bien dire que nous lui avons demandé de venir nous aider pour nous enfoncer dans l'enfer.
Une autre question. Est-ce que cette affirmation de Marcel Sekaldi est justifiée quand on voit que la communauté internationale n'a toujours pas encore réagi officiellement
Marcel Sekaldi est un commerçant. Il a été commis.
C'est un
avocat français, un éminent avocat français. Mais qui a pris de l'argent avec l'État malien pour rédiger un travail. Il est obligé de le défendre, Marcel Sekaldi. Maintenant, par rapport au contenu de l'accord, je suis bien d'accord au contenu du projet de référendum, je suis bien d'accord avec Paul Mbembe de l'autre côté, que effectivement, il y a des éléments de la commission Daba Diawara qui figurent dans ce truc-là, mais la commission Daba ne dit pas que le président de la République met en place un Sénat dans lequel il doit désigner, nommer un tiers du Sénat.
Mokhtar Bari, est-ce que vous pensez...
L'État international ne peut pas pour imposer un agenda au président de la République, d'autant plus qu'il a été élu par 77% de la population malienne.
Donc vous pensez que le dernier mot...
Entre le choix de la communauté internationale et du président malien, entre ces deux-là, je crois que le président...
va choisir le peuple.
Le peuple, quoi.
Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à un consensus entre les deux parties sur cette
révision? Je pense que les dialogue de toute façon doit prévaloir. On l'a vu en septembre, lorsque la tension, la crise sociale était au plus haut, le président de la République avait en tout cas entamé des consultations où il a même rencontré le chef de file de l'opposition, et je crois que ça a contribué à apaiser les cœurs.
Alors, mesdames et messieurs, ce qui met fin à ce forum de la presse, 45 minutes pour parler de la situation sécuritaire dans le centre et le nord du pays, le processus de paix et la révision constitutionnelle. Je profite pour vous inviter tous à notre débat public qui se tiendra le mardi 18 juillet à 10h dans la salle de la Maison de la Presse ici à Bamako. Il y aura le ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme constitutionnelle, Monsieur Kassoum Tapo, et Thieblaine Dramé, président du Parrain. Je suis Mohamedou Touré, nos invités Amadou Ombo-Timbe, journaliste indépendant, Mokhtar Bari, Africa 24, Paul Ben, journaliste indépendant, Amadou Salif Guindo de l'Enquêteur. Le débat a été réalisé par Moumine Sendebou et Fatmata Togola à la mise en onde de Gagny Kanté, et à demain pour une nouvelle émission.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo de Maudi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.